En route vers les Paralympiques 2024, c'est une série de 4 émissions où nous regardons ensemble la programmation des Jeux de Paris, tout en nous attardant sur un sport en particulier, en passant du temps avec un ou une athlète, son entraîneur ou sa partenaire d'entraînement. En s'appuyant sur une couverture médiatique accrue, nous souhaitons vous donner le goût de suivre les différentes compétitions et peut-être même d'applaudir les exploits d'athlètes que nous aurons connus davantage. Lors de l'émission d'aujourd'hui, nous découvrirons un athlète qui défie toutes les règles de progression depuis 2020, Anthony Bouchard. Suite à cette entrevue, nous avons passé du temps avec son entraîneur, Nathalie Séguin, en charge du volet paralympique du club d'athlétisme de l'Université Laval. Nous profiterons de ces rencontres pour faire un tour d'horizon de la présence québécoise passée en athlétisme paralympique. Je m'appelle Yvan Deslauriers et tout ça en route vers les Paralympiques 2024. Les premières médailles en boccia seront remises lors de finales individuelles. Nous surveillerons particulièrement les performances d'Alison Levine de Montréal en BC4 et de Danick Allard de Bois-des-Filions en BC2. La finale en BC4 aura lieu le 2 septembre, tandis que celle en BC2 se tiendra le 1er septembre. Les 1er et 2 septembre auront lieu les différentes épreuves du paratriathlon. Un représentant canadien participera à ce sport. Il s'agit de Jacob Wasserman de Saskatoon. Jacob est un ancien joueur de hockey qui fait partie des survivants de l'accident d'autobus des Broncos de Humboldt en 2018. Il fera ses débuts paralympiques à sa première saison internationale complète de compétition en para-aviron. Le 1er et 2 septembre auront lieu les différentes épreuves de paratriathlon. Deux Canadiens y participeront. Camille Frenette, de Dieppe au Nouveau-Brunswick, concourra dans la catégorie PTS-5. Née avec un pied beau, son pied droit est 2 fois plus petit que son gauche, mobilité réduite dans la cheville, elle a gradué en 2018 avec un diplôme en biologie de l'Université de Moncton. Membre de l'équipe de cross-country de l'Université de Moncton, elle a obtenu aussi un 2e diplôme en pharmacie en 2022 à l'Université Dalhousie à Halifax. En 2023, elle a remporté une médaille de bronze au World Triathlon Paraseries de Montréal et à l'épreuve test de la Coupe du monde de triathlon paralympique de Paris. Elle a terminé 4e lors des championnats du monde de triathlon paralympique à Pontevedra, en Espagne. En juillet 2024, Frenette était classée 4e au monde dans le PTS-5 féminin. Stephen Daniel, de Calgary, aussi en PTS-5, a écrit une page d'histoire en 2016 en devenant le premier triathlète canadien de l'histoire à gagner une médaille aux Jeux paralympiques avec une d'argent à Rio, où le sport a fait ses débuts paralympiques. Au 1er juillet 2024, Daniel est classé numéro 1 mondial dans la catégorie PTS-5 hommes. Anthony Bouchard est né le 4 novembre 1992 au Saguenay. Blessé lors d'un accident de voiture en 2011, Anthony n'a débuté la course en fauteuil roulant qu'en 2020. Mais 3 ans plus tard, il était sur la ligne de départ au championnat du monde 2023. Il s'est qualifié pour la finale des 100 mètres et 400 mètres masculins T52 en se classant 8e à chaque fois. Il gagnera la médaille de bronze du 400 mètres. Selon Jean-Philippe Martin de Radio-Canada Sport Québec, lorsqu'il demande l'aide de Parasport Québec pour découvrir le para-athlétisme en 2021, Anthony Bouchard n'a aucune idée que cette aventure le mènera, à peine 2 ans plus tard, jusqu'à l'équipe canadienne et peut-être même jusqu'aux Jeux paralympiques. L'athlète de 30 ans originaire de Saint-Bruno au Lac-Saint-Jean et résident de Québec, s'envolera bientôt pour Paris pour représenter le Canada aux Jeux paralympiques de Paris en août. Pour l'entrevue qui va suivre, j'ai rencontré Anthony lors des essais olympiques et paralympiques en athlétisme au centre Claude Robillard à la fin de juin dernier. Il venait de courir un 400 mètres en fauteuil roulant. On nous a installés dans un coin un peu à l'écart, près de la piste, lui dans son fauteuil et moi assis par terre près de lui. Voilà ce que ça a donné. Bruit ambiant en su. Alors, je suis avec Anthony Bouchard, qui fait de la course, 100 mètres, 400 mètres.
Oui, en fauteuil roulant.
En fauteuil roulant.
Par athlétisme.
Première question, qu'est-ce qu'il y a sur ton horaire pour la fin du mois d'août?
Idéalement, les Paralympiques. On vise ça. C'est l'objectif numéro un en ce moment.
OK. Là, tu participes aux essais. Ça consiste en quoi?
Je dois gagner ma catégorie. Je dois gagner la course de ma catégorie qui était 52 aux essais pour que mon standard soit éligible, si on veut.
Okay. Est-ce qu'il faut que tu fasses un temps?
Non, absolument pas. Je dois gagner la course de ma catégorie, ce qui ne sera pas nécessairement super difficile puisque je suis le seul T52 au Canada.
D'accord.
Donc, autrement dit, je dois faire la course.
D'accord. Il faut que tu te rendes au bout.
Oui, exact.
T52. Ça veut dire quoi?
Le T, c'est pour track. Ça veut dire que c'est un sport de piste. Puis le 5, c'est pour limitation physique qui serait due à un accident ou de naissance. Puis le dernier chiffre, le 2, c'est de 1 à 4. 4 étant le moins affecté, 1 étant le plus affecté. Donc moi, je me trouve à être un T52, ce qui veut dire que je suis quadriplégique, mais j'ai la fonction des triceps. Donc je suis capable de pousser. J'ai pas la force de mon tronc pour m'aider à pousser, mais je suis capable de pousser quand même avec mes bras.
J'ai vu qu'au niveau mondial, au 100 mètres, tu étais 5e. 4e ou 5e?
Je crois que j'étais 5e, mais il y a des gens qui ont eu des bonnes courses. Je crois que je me trouve à être 7e en ce moment.
OK. Au 400 mètres, je pense que tu es autour de 8e.
Oui, aux alentours de ça aussi.
Quelle épreuve préfères-tu entre les deux? Est-ce qu'il y en a une que tu préfères entre les deux?
Je préfère le 100 mètres, beaucoup moins difficile.
Là, je viens de te voir faire un 400 mètres.
Oui, le 400 mètres, c'est toujours dur à la fin, mais en termes de performance, je dirais que les deux, un prend le dessus sur l'autre, l'autre reprend le dessus sur l'autre, donc on n'a pas encore vraiment découvert laquelle des deux distances était à prioriser.
Est-ce que tu fais des relais?
Non, pas de relais.
Juste des simples. En fonction de Paris, si tu es choisi, ça semble bien parti, quels sont tes espoirs pour cette compétition?
Ça va vraiment être mes premiers jeux, donc je crois que mes espoirs, ça va être de performer du mieux que je peux, performer à la hauteur de ce que je suis capable en ce moment, au travers de toutes les... De tous les trucs qui amènent des jeux multisports, le village des athlètes, prendre le transport, aller à la piste, puis il n'y a pas nécessairement des heures d'entraînement où on n'a pas nécessairement accès à la piste avant pour ajouter notre fauteuil. Donc, ça va vraiment être de performer du mieux que je peux avec aux Paralympiques, si on veut.
Okay.
Ça serait vraiment ça mon objectif pour le moment.
Je sais que tu as eu un accident en 2011, il me semble. Est-ce que tu as toujours été un athlète avant cet événement?
J'ai toujours été actif. J'ai jamais été athlète compétitif, sport de compétition ou peu importe. Je faisais du sport pour le plaisir seulement.
Quel chemin t'a amené à faire du sport de compétition?
Je crois que j'avais fait le tour de ce qui était possible pour moi en étant en mobilité réduite, puis j'étais rendu à essayer le sport. Puis c'est vraiment le fauteuil, la course en fauteuil qui m'a le plus... Plus intéressé, je crois.
Ta progression est très, très accentuée. Je pense qu'en 3 ans, tu as fait des progrès énormes. D'ailleurs, tu es médaille d'or aux Jeux parapanaméricains. Raconte-nous cette médaille d'or. Comment as-tu trouvé cette course-là?
Oui, vraiment inattendu. Toutes les gens qui étaient là étaient environ dans les mêmes temps que moi, donc je savais vraiment pas comment anticiper la course. J'aurais pu terminer dernier, je pouvais terminer premier. J'avais vraiment aucune attente. J'ai quand même pas laissé ça me monter, me faire stresser plus. Puis j'ai fait ma course. Je me suis pas laissé arrêter par les autres qui avaient des temps similaires aux miens, puis ça a payé.
Félicitations. Tu devais être très content.
Oui, absolument.
De quoi a l'air une journée normale d'entraînement pour Anthony Bouchard? Ça a l'air de quoi?
Souvent, c'est un entraînement le matin. Ça arrive l'après-midi aussi, mais c'est souvent le matin. 4 à 5 jours par semaine. Puis on a 3 journées aussi qu'on va à la salle d'entraînement pour faire de la musculation.
Ça se fait à l'Université Laval?
Oui, tout à l'Université Laval. Okay.
Tu nous as déjà dit qu'à Paris, tu voulais apprécier tes Jeux. Tes premiers Jeux. Est-ce que tu vises Los Angeles?
Oui, absolument. Oui. Lui serait même plus... j'aurais plus... Je crois que je vais avoir plus de grosses attentes pour Los Angeles dans 4 ans que pour Paris, qui était jusqu'à tout récemment même pas dans la mire. C'est sûr qu'on pratique toujours le sport dans ce but-là, mais c'était un peu tôt. Quand on regardait ça l'an dernier, mettons, c'était un peu tôt de rêver à ça, mais les performances ont amélioré, puis là, ben, je suis rendu là en ce moment.
Dernière question. Est-ce que tu as été inspiré, par exemple, par Dean Bergeron, un athlète qui vient de ton coin, du Saguenay-Lac-Saint-Jean?
Oui, absolument. Dean Bergeron, surtout qui est dans la même catégorie que moi.
Oui, c'est ça, mais t'es 52, oui.
Puis qui a presque tous les records canadiens, donc c'est vraiment une inspiration, puis quelque chose, quelqu'un que je regarde comme athlète et comme exemple.
Est-ce que tu l'as déjà rencontré?
Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer l'an dernier ou il y a 2 ans. On est allé dîner, puis on a eu une bonne petite conversation sur le sport et tout ça.
Excellent. Bon, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé et je te souhaite du bon temps à Paris, si tu y vas.
Yes. OK. Merci beaucoup. Au revoir.
Nathalie Séguin est entraîneur du volet paralympique du club d'athlétisme de l'Université Laval depuis une dizaine d'années. Mais elle a aussi été entraîneur-chef de l'équipe masculine nationale de goalball de 2016 à 2021 et est toujours entraîneur-chef des équipes masculines et féminines de goalball du Québec depuis 2013. Avec Anthony, Nathalie a un défi bien spécial. Gérer un athlète à la progression fulgurante. Ses plans d'entraînement, pour lui, doivent être revus régulièrement parce qu'ils deviennent rapidement obsolètes. Les derniers résultats à Santiago lui font croire qu'Anthony a des chances de se retrouver sur un podium parisien. J'ai recueilli les propos de Nathalie peu de temps après avoir interviewé Anthony lors des essais olympiques et paralympiques de la fin de juin dernier au Centre Claude Robillard. Dans ce cas-ci, nous avons parlé dans la zone mixte, près de la piste, au moment où d'autres épreuves avaient lieu. Ce sera donc une conversation ponctuée de quelques signaux de départ et d'encouragement. Bonjour Nathalie, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Alors, tu es l'entraîneur de Anthony Bouchard. Est-ce que tu es l'entraîneur de d'autres athlètes?
Je suis l'entraîneur du club d'athlétisme de l'Université Laval pour le volet para-athlétisme. Donc, tous les athlètes là, en lancer assis, course en fauteuil, c'est moi qui vais les entraîner. Puis j'ai aussi un titre d'entraîneur-chef de l'équipe du Québec. Donc, je vais superviser là, les athlètes à travers le Québec au complet aussi.
Les athlètes para?
Ou... Oui, para seulement, là.
D'accord. Je pense que je t'ai vu sur un petit film YouTube à un moment donné avec Anthony. Est-ce que ça se peut?
Ça se peut très bien. Anthony a fait plusieurs entrevues là, avec des Radio-Canada, plusieurs postes. Là. Donc, c'est très possible là, qu'on ait vu Anthony ailleurs aussi. Là.
D'accord. Donc, si Anthony va à Paris, est-ce que toi, tu vas à Paris?
Je vais comme spectatrice, mais c'est sûr que je vais pouvoir là, acheter des billets, le voir, puis le suivre aussi à Paris.
D'accord.
Tu dis que tu y vas comme spectatrice. Est-ce que ça veut dire que avant ou après une course d'Anthony, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de transmission d'informations?
Oui, exact. Ben, les Jeux olympiques et paralympiques, ça fonctionne par accréditation, puis il y a un nombre limité par pays. Donc, chaque sport puis chaque pays va choisir à qui attitrer ces accréditations-là. Donc, moi, je ne fais pas partie de l'équipe d'Athlétisme Canada, donc je n'aurai pas d'accréditation, mais ça va être possible probablement pour eux de m'avoir une passe pour rentrer dans le village, discuter avec Anthony, stratégie haute. Mais sinon, mis à part ça, ça va être par Zoom, même si je ne suis pas très loin de lui, ou par appel. Donc, ça fait bizarre, mais c'est la réalité des accréditations.
Ben, c'est quand même pas mal d'aller à Paris pour cette raison.
Exact. Puis c'est sûr que des Jeux francophones, des Jeux paralympiques francophones, ça n'arrivera pas souvent.
Oui.
Donc, pour moi, c'était une chance à ne pas manquer. Là.
Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que c'est ton parcours pour arriver comme entraîneuse d'athlètes paralympiques, dans ce cas-ci, mais des athlètes paralympiques en général?
Pour ma part, j'ai été lanceuse de marteau à l'Université Laval dans mes années universitaires. Et quand j'ai réalisé, moi, je veux rendre le sport accessible, rendre le sport à tout le monde, que tout le monde puisse pratiquer le sport qu'il souhaite. Et j'ai trouvé ça particulier que l'athlétisme ne soit pas à Québec, le para-athlétisme. Donc, j'ai demandé au club là, de développer un volet para puis que je m'en occuperais. Donc, en 2014, on a pu partir. Il y en a déjà eu un à l'époque avec Pierre Pomerleau, avec Chantal Petitclerc, Dean Bergeron. C'était un très, très fort, mais ça l'a arrêté quand ils ont pris leur retraite. Donc, moi, c'est comme si je l'avais reparti, mais de zéro.
Quelle est ta philosophie d'entraîneur?
Je sais ce que le sport peut changer dans une vie, donc je veux juste m'assurer que les athlètes, les participants dans nos programmes font en sorte qu'ils se développent comme personne avant tout, qu'ils aient du plaisir à le faire, mais qu'ils puissent aussi atteindre leurs objectifs puis se dépasser eux-mêmes. Donc, selon les objectifs de chacun ou les buts de chacun, ben ma stratégie ou ma philosophie va un peu changer comment je vais les entraîner. Fait que c'est vraiment très individualisé comme approche. Puis pour moi, c'est des personnes avant tout. Donc, c'est vraiment par ça que je vais tout le temps.
Est-ce que ton approche d'entraîneur change particulièrement dû au fait que tes athlètes ont un handicap?
C'est sûr que ça change. Je pense que comme entraîneur, il faut être beaucoup plus complet parce qu'il y a des réalités qu'on va avoir dans leur vie quotidienne. Ils vont se fatiguer, ils vont être affectés par d'autres environnements qu'il faut que nous, on considère dans l'entraînement. Mais il y a aussi tout l'aspect médicaments, l'aspect fatigue et très individualisé encore une fois parce que quelqu'un peut avoir la même maladie mais qui se présente avec des symptômes complètement différents. Donc, il faut avoir une ouverture d'esprit assez développée.
Est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu es aidé par des médecins, des infirmiers, des infirmières?
Oui, c'est sûr. Quand ils viennent et sont jeunes, les parents nous aident beaucoup aussi. Là. Ils connaissent bien leur enfant. Mais en même temps, ben, c'est demander à l'athlète avant tout. Eux se connaissent le plus. Mais si on a des questions, je t'avouerais, au niveau des médicaments, j'ai fait beaucoup de recherches des fois parce que des noms, je les connais pas. Puis je sais pas comment ça affecte le sport. Donc là, à ce moment-là, des fois, je vais aller poser des questions à des connaissances que j'ai, mais je sais qu'avec, par exemple, Excellence sportive Québec-Lévis, quand on a des demandes à faire, on va avoir des outils et des références.
Est-ce que, là, je vais poser une question naïve, on connaît plus les athlètes que les entraîneurs. Qui va vers l'autre? Est-ce que c'est l'entraîneur qui identifie un athlète potentiel ou c'est l'athlète qui approche un entraîneur?
Je dirais, au niveau para, c'est très différent d'une situation à l'autre. Il y a des entraîneurs qui vont voir dans la rue quelqu'un avec un handicap puis vont dire « Hey, je te vois dans tel sport, tu viens-tu? On a un club. » Ça, c'est déjà arrivé. Moi, je suis plus à tendance timide. Fait que ce sera difficile pour moi de faire ça. Par contre, on a aussi des organismes comme Parasport Québec qui essayent beaucoup de faire valoir leur programme, de les mentionner. Et là, à ce moment-là, Anthony a passé par Parasport Québec pour pouvoir venir vers notre club. Donc, c'est plus le bouche-oreille, des fois, qui va se faire passer. Ou sinon, ben, ce qu'on essaie beaucoup de développer, c'est les centres de réadaptation, où ils font leur réhabilitation. C'est là qu'on veut qu'ils informent que les sports existent, parce que c'est le début d'une nouvelle vie pour
moi.
Ouais. Ouais, exact, d'un partenariat là, qui est important.
Dans le cas d'Anthony, je viens de lui parler, il vise d'avoir des Jeux de Paris, des Jeux intéressants. Intéressants pour lui. Ce seront ses premiers Jeux. Tout est nouveau pour lui. Il ne vise pas nécessairement une performance, quoique étant athlète, j'imagine qu'il vise...
Mon petit Steph.
Est-ce que toi, tu le prépares à Paris dans le but des prochains Jeux à Los Angeles ou votre processus et le moment présent, c'est Paris d'abord?
Je pense que moi et lui, ça donne bien quand même. On pense de la même manière. On est tellement une année à la voie. Son développement a tellement été rapide qu'il a fallu réajuster souvent nos objectifs. Donc, dans son cas, c'est un peu la même chose. T'sais, je ne sais pas, moi, s'il va encore aimer le sport hein, à LA 2028, j'espère. C'est ça notre but. Mais on pense vraiment une année puis à la fois. Puis pour nous, Paris, c'est une expérience. Fait qu'il va aller vivre l'expérience. Mais il veut bien faire. Il veut être fier de lui. Donc, on sait que ça vient avec aussi un résultat et une performance. Là. Mais oui, sinon, il va vraiment une année à la fois, pour être honnête. Là.
Est-ce que vous étiez à Santiago quand il a gagné sa médaille d'or en para-panaméricain?
Donc, j'étais à Santiago, mais je coach aussi un autre sport. Je coachais à un autre sport national qui est le goalball. Oui. Puis on s'essayait de se qualifier chez les hommes. Donc, chez les hommes, on a manqué notre chance. Donc, j'étais avec Anthony dans le village et tout ça, mais j'ai pas vu aucune de ses courses parce que je coachais dans l'autre sport.
Alors, amenez-nous à Paris. Qu'est-ce qu'on doit surveiller autour d'Anthony, peut-être? Quelles sont les courses à surveiller et les athlètes à surveiller à Paris?
Pour le Canada, Austin Smith qui est en ce moment sur une super belle lancée dans la catégorie T34. Donc, il va faire le 100 mètres, 800 mètres. Je dirais que lui, c'est un bon joueur à voir. Brent Lakata, c'est un...
Est-ce que ça serait ses derniers Jeux?
Je le sais pas. Brent, il est juste trop fort. Donc, s'il veut revenir...
Trop fort pour la Ligue.
Oui, fait que s'il veut revenir, je pense qu'il pourrait faire d'autres Jeux. Mais le corps, à un moment donné, a de la misère à suivre aussi. Fait que je pense que ça va être une décision personnelle. Là. Mais Brent Lakata, c'est juste quelqu'un de magnifique à voir. Puis comme personne, il est aussi incroyable. Je pense que c'est quelqu'un d'intéressant. Puis sinon, dans les autres athlètes, du côté des hommes, c'est très fort. Il y a beaucoup de premiers au monde, au Canada et tout ça. Donc, je dirais, chez les hommes, c'est difficile. Puis chez les femmes, on a plusieurs athlètes, jeunes athlètes. Là. On pense à Bianca, qui fait du 100 mètres pour de la déficience visuelle, T13. On a Sherianna, qui est aussi une jeune athlète amputée au niveau du bras. C'est une jeunesse. Fait que chez les femmes, ça va être intéressant pour la jeunesse. Puis chez les hommes, c'est l'expérience, puis la qualité, tout ça. Puis Anthony, il y a des bons compétiteurs. Là. Ils sont tous super proches. Fait que c'est même excitant aussi. Là. Ça va être serré. Là.
Il me semble qu'à Santiago aussi, ils étaient tous proches. Ça se joue sur l'événement lui-même.
Oui, exactement. Là. C'est pas le meilleur qui s'est entraîné dans l'année. Là. C'est celui qui est capable de performer au moment qu'on lui demande de performer. Puis ça, c'est la force Anthony. Honnêtement, à chaque fois qu'il a fallu qu'il performe, il était excellent.
Je te remercie vraiment beaucoup. Je te souhaite de bons Jeux en tant que spectatrice.
Un peu coach sur le sideline.
En terminant, si j'ai à regarder un seul élément à Paris en paralympique, je regarde quoi?
Je dirais juste pour l'incroyable, là, ça serait le 5000 mètres T53, T54. Il y a un athlète qui s'appelle Marcel Hugues qui est juste une sommité. Il est incroyable. Il a même pas de l'air de forcer, mais ça roule vite. C'est incroyable. Fait que je dirais ça.
C'est noté. Merci beaucoup pour ton temps.
Merci.
Dès le 30 août, Anthony sera en piste pour le 400 mètres T52. Il reviendra le 5 septembre pour le 100 mètres. Espérons qu'il rejoindra à Paris et ou à Los Angeles, dans l'imaginaire du public, les Chantal Petitclerc, Brent Lakatos et son idole, Dean Bergeron. Dean Bergeron est né à Labbé le 12 novembre 1969. Voici la description de sa carrière dans le site d'Athlétisme Canada. Participant à 4 Jeux paralympiques et revenant avec 11 médailles, le coureur en fauteuil roulant dans la catégorie T52, tout comme Anthony, Dean Bergeron, est un des paralympiens canadiens ayant connu le plus de succès. Bergeron a fait ses débuts paralympiques aux Jeux d'Atlanta en 1996, avant de participer aussi en 2000, 2004 et 2008. En tout, Bergeron a remporté 3 médailles d'or, 3 d'argent et 5 de bronze dans son impressionnante carrière. Pendant la Super Série paralympique Retour en arrière, en 2020, Bergeron s'est rappelé son expérience paralympique, dont le 100 mètres à Beijing en 2008, qui est une de ses plus mémorables courses. Après un mauvais départ, il a dit qu'il n'a pas abandonné et s'est plutôt concentré sur ce qu'il devait faire. Et à la fin du sprint, il a franchi la ligne d'arrivée le premier. La leçon qu'il a apprise dans cette course est quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Quand les choses ne vont pas bien, simplement vous concentrez sur ce que vous faites le mieux et donnez la meilleure performance que vous pouvez et n'abandonnez jamais. Pour leur part, Chantal Petitclerc a participé à 5 Jeux paralympiques en 1992, 96, 2000, 2004 et 2008 et a gagné 21 médailles, dont 14 d'or, dans les courses en fauteuil roulant. Tandis que Brent Lakatos participera à ses 6e Jeux paralympiques avec déjà 10 médailles en carrière, une d'or, 7 d'argent et 2 de bronze. Rappelons que du 28 août au 8 septembre, Geneviève Tardif et Kevin Breton seront les chefs d'antenne des Jeux paralympiques de Paris 2024. Ils pourront compter sur l'ex-paranageur Benoît Huot, Roselyne Filion et Jean Saint-Onge pour nous faire vivre les Jeux paralympiques en direct de Paris. Une sélection d'épreuves sera offerte en intégralité sur ICI-tout.tv, en direct et sur demande. À la télé, ICI Télé diffusera 56 heures de programmation paralympique. La couverture quotidienne sera présentée en direct de 15h à 17h du lundi au samedi et de 14h à 17h le dimanche 1er et le samedi 7 septembre. En soirée, Jean Saint-Onge animera une émission sur le terrain du mardi au vendredi à 23h05 et du samedi au lundi à 22h30. Les cérémonies d'ouverture du 28 août et de clôture du 8 septembre seront présentées en direct à 13h30 et rediffusées en fin de soirée. Je remercie particulièrement Mathieu Tessier à la technique et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Je m'appelle Yvan Deslauriers, j'ai été impliqué à la recherche et à l'animation. En route vers les Paralympiques est une série de 4 émissions conçues et réalisées par Canal M, la voix de l'inclusion.